Je crois que la conversation que vous vous apprêtez à écouter est l'une de celles qui m'a le plus ému depuis le début de ce podcast. On dit souvent qu'à la fin de sa vie, on regarde en arrière pour savoir ce que l'on laisse derrière soi. Imaginez que vous avez sauvé des dizaines de millions de vies, que vous avez assuré plus d'égalité sociale en France, mais aussi à l'étranger. Comment est-ce que vous vous sentiriez? C'est précisément ce qu'a fait mon invité du jour, Xavier Emmanueli. Il a 83 ans. C'est un médecin qui est à l'origine du SAMU social, mais aussi de Médecins Sans Frontières. Il a travaillé dans des prisons, il s'est battu toute sa vie pour plus de justice sociale. Et c'est un homme qui regarde en arrière avec une humilité sans pareil. On parle de beaucoup de choses, en particulier de son héritage familial, de la création du SAMU, puisqu'il a participé aussi, du SAMU social, on parle de justice sociale, de comment convaincre Jacques Chirac de lancer le SAMU social, mais aussi de l'hôpital, aujourd'hui. Ce qu'il est devenu et comment il faudra le réformer selon lui. Et vous verrez qu'il ne prend pas vraiment de pincettes pour en parler. Alors j'espère que vous pourrez partager avec moi cette émotion profonde que j'ai ressentie et qui m'a fait pleurer quand j'ai sorti de cet entretien. Donc je vous souhaite une très bonne écoute. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Comment ça va aujourd'hui?
Ça va, oui, vraiment ça va.
La question que je me pose quand je rencontre une personne comme vous, c'est qu'est-ce que ça fait d'avoir changé la vie de millions de personnes?
De millions?
Centaines peut-être, de millions.
C'est quand vous vous trouvez au bon moment culturel, au bon endroit avec les personnes qui apportent qui sont des catalyseurs. Et ça fait que vous êtes non seulement le témoin sans le vouloir, mais qui vous est donné, que la Providence vous offre un rôle actif. Et c'est ce qui s'est passé lorsque je voulais absolument faire de l'urgence, voyez-vous. Mon père était un médecin généraliste, un médecin qui avait traversé des événements. Il venait de la Corse, vous savez, une île.
Je vois bien.
Oui, je sais bien. Avec des coutumes latines, société traditionnelle et particularisme de l'île. Et il avait une simplicité, ce que j'appelle les nobles de la montagne, c'est-à-dire des gens qui ont un abord facile et de l'intérêt pour autrui. Vous savez, une appétence pour l'autre, une curiosité, mais une curiosité bienfaisante. Il avait été un stit, parce qu'en Corse, c'était une société un peu soudève. Et à son époque, je ne dis pas que c'est mieux maintenant, mais on pourra en parler.
On pourra en parler.
La seule façon de s'en sortir, lui qui était fils de veuve de guerre, dont la mère, ma grand-mère, avait été obligée de faire des coutures, des ménages, enfin. Et donc, qui a été pupille de la nation. Et donc, qui a conquis sa différence de statut social avec une sorte d'entêtement. Il voulait y arriver. Et donc, après ses études, il a fait l'école normale d'instituteur où il a rencontré ma maman qui faisait le même périple, mais d'un autre. Et je suis là, hein,
à cause de ça.
Mais la Corse, c'est à l'époque, un pays patriarcal. Et puis, ils voulaient bouger, ces jeunes gens. Et ils sont en quelque sorte exilés. C'est des enfants de l'exil. Ils sont venus à Paris où on avait un vague cousin. C'est toujours la même chose. Il y avait une diaspora. Chacun se sentait tenu d'aider l'autre. Et il est devenu, il est devenu médecin, fait des études de médecine. Puis c'était la guerre. Et puis, il a été confronté à des choix qu'on ne connaît plus. Pas beaucoup d'outillage, pas d'antibiotiques, tout ça. Donc, beaucoup de compassion. Et un intérêt pour les gens. Donc, j'ai eu cette formation. En somme, c'est pas une formation avec des mots, hein, parce que ça, il ne se passe rien avec des mots. Ils ont tous été jetés au vent. Mais avec des situations. Et j'ai donc fait de la médecine. Il était médecin à Ormesson, ville semi-rurale, semi-urbain. Et j'ai grandi dans la campagne. C'est vrai, très librement, comme on ne peut plus imaginer. Les enfants lâchés comme ça jusqu'au soir. Et donc, vous voyez, le monde a vraiment changé. Il y avait une liberté. On poussait, quoi. Et puis, j'ai été médecin. Ça ne vous étonnera pas. Et j'ai fait des remplacements de médecin d'une médecine de l'époque. C'est-à-dire que j'ai pu faire des accouchements à domicile. Si vous voulez, c'était un médecin encore puissant et très isolé. Mmh. Il n'y avait pas tant que ça. Et les gens attendaient quelque chose du médecin qui était de l'ordre magique. Quelqu'un qui a une puissance, qui a fait mourir, qui a fait naître des tas de gens, il doit savoir quelque chose sur la nuit, sur la vie, sur la mort. Et puis en même temps, tout le monde n'a pas la sécurité sociale. Comme disait ma maman, mais enfin, tu ne l'as pas encore fait payer celui-là. Mais tu sais, il n'y a pas d'argent. Et donc, une espèce de compréhension du statut du pauvre. Mm-hmm. Parce qu'il vient de la pauvreté. Vous voyez.
Bien sûr.
Et compassion, intérêt pour autrui. Mais moi, donc, j'ai fait cette médecine-là où vous êtes seul. Et j'ai toujours voulu faire de l'urgence. Et donc, la seule façon d'y arriver, c'est de faire de la spécialité d'anesthésie-réanimation. Mais j'ai fait beaucoup de remplacements, 36 d'ailleurs, à la campagne et tout. Et ça vous donne un certain point de vue, cette médecine de solitaire, jour et nuit, si vous n'aviez pas 35 heures et tout ça. Il n'y a pas assez de... Mais un espèce de devoir. On vous appelle, il faut y aller. Et vous essayez de négocier. Mais les gens avaient aussi du respect pour la fonction. Pour l'homme, c'était ce qu'ils étaient, mais la fonction. C'est pour ça que j'ai coutume de dire les cinq fonctions du médecin de l'époque étaient médecin de famille, c'est-à-dire un médiateur familial, puisque les gens vivaient sur deux ou trois générations. C'est les grands-parents, les parents, mm-hmm. mais aussi les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. Mm-hmm. Mais vous devez connaître. Donc, sur trois générations, et pendant que les parents travaillent au champ, c'est les grands-parents qui transmettent à leur façon, en se mettant en scène, mais ils transmettent quelques valeurs traditionnelles. Et donc, il y a un médiateur familial, c'est une personnalité, il devient souvent l'adjoint au maire, ou en tout cas c'est un notable, médiateur social, ben, médecin, bien sûr, mais cette espèce de gourou de l'autorité, mais une autorité pas mal placée. Et surtout un accompagnant fraternel. C'est-à-dire que les gens, il n'y avait pas de soins palliatifs, de trucs comme ça, puisque les gens mouraient à domicile, mais ils venaient gratos, par fraternité. Je ne faisais pas payer, ce n'est pas des vraies visites. C'est des visites de... Comment vous direz,
courtoisie, quasiment. Ou
de compagnons d'éternité.
Ouais, c'est ça. C'est très beau.
Et on a le même statut, le même rang. Je viens avec toi. Donc voilà, c'est la noblesse du métier de l'époque. Puis les gens étaient un peu naïfs, ils étaient pas déniaisés comme maintenant avec Michel Simès ou que sais-je. ils connaissaient pas leur organisme. La sexualité, ils savaient s'en servir, certes, mais ils savaient pas ce que ça représentait. Les cycles, les filles, tout. Là, et puis c'était un grand mystère, les pathologies. Naturellement, ça renforçait un peu le pouvoir médical. Mais c'était de bon aloi. De bon aloi. Le monde a changé. Il a changé. On n'est plus une société traditionnelle où le temps est cyclique, vous savez. Le printemps, les récoltes, les labours. Et donc, avec des... Vous avez l'impression d'être dans un monde, dans quelque chose qui a un sens. Bon, c'est le temps qui revient. C'est au moment où les enfants grandissent aussi, se renforcent, et puis ils vieillissent et meurent. Mais c'est des cycles, oui, mais comme la terre se repose en hiver, tout renaît. au printemps, il n'est pas impossible que la vie humaine, quand on est sous terre, se prépare pour une germination. Donc, si vous voulez, tout est à sa place, à une bonne place. Et puis, pour lui, il y a eu la guerre qui a tout bouleversé. L'acharnement contre les Juifs. Lui, il ne comprenait pas que vous aviez une erreur de naissance. C'était plus fort que lui. Donc, vous le trouvez sur le... C'est injuste, lui et ses mamans, parce qu'ils ont pris tous les risques. Donc, il était heurté que quelqu'un, simplement, parce qu'il était né juif, ou noir, ou jaune, ou pouvait être au banc de la société. Mais il faut dire que c'est difficile à comprendre d'un point de vue.
Ça n'a aucun sens. Enfin, ça en a un, mais...
Non, ça n'en a pas. Ça n'en a pas, c'est comme si l'humanité se scindère en petits morceaux plus valables, les unes que les autres. Mais aux yeux de qui? Aux yeux de qui? Donc voilà, il m'a appris ça, mais j'ai voulu faire de l'urgence. C'est-à-dire, comme tous les jeunes, je voulais voir le résultat
tout
de ce que je faisais. J'étais fasciné. Évidemment, toute ma jeunesse me racontait l'histoire d'Henri Dunant, de Louis Pasteur, des grands médecins. Ben, mine de rien, vous qui avez fait du marketing, ça finit par vous imprégner. Je n'ai pas eu un vrai choix, dans le fond. La médecine, il n'y a pas moyen de faire autrement, si je ne vois pas. Mais tu fais ce que tu veux. Oui, je fais ce que je veux. Mais c'était bien préparé. Non
mais ça, c'est ce qui explique votre métier de médecin. Mais le fait de créer le SAMU social, de cofonder Médecins Sans Frontières, c'est encore une autre étape. Enfin, je veux dire...
Je vais vous la dire. Naturellement, je vous dévide tout ça comme si c'était un récit logique, causalité, tout ça. Mais bien entendu, je le sais que en me retournant sur ma vie et en essayant de construire un truc logique, c'était pas comme ça, bien entendu.
Bien sûr. Enfin, mais cela dit, c'est intéressant de le dire parce que je pense que pour beaucoup de gens qui essayent d'avoir un chemin, qui essayent de trouver un sens à leur vie, c'est important que vous le puissiez le dire. Ben, en fait, c'était pas linéaire.
Et ça peut pas. Ça peut pas parce que, d'abord, parce que maintenant je sais le scénario, parce que je l'ai vécu, mais j'avais pas les codes. Et donc, ce qui m'intéressait quand même, que vous le croyez ou non, hérité de mon père, j'avais de la compassion. Les gens qui étaient mal, ça me rendait mal, si vous voulez. Et je vous assure, physiquement, je voulais faire quelque chose, bien maladroitement, puisque... Et donc, voilà, l'urgence, à l'époque... Il y avait le SAMU en perspective. J'étais chez un maître que j'avais choisi. On pouvait choisir où on va. Alors, moi, ici du petit peuple, je disais, il faut un maître de gauche. C'était pas la majorité des mandarins de l'époque.
Non, à l'époque, certainement pas.
Est-ce que maintenant... C'est ça. Je n'ai pas de réponse. Et alors... Mais il se prétendait de gauche... Mais vous apercevez que bon, c'est un grand médecin, mais je n'en avais rien à foutre. Mais d'un autre côté, il m'a appris la technique. C'est un maître à l'ancienne. C'est un homme dur. Fanamili, c'est-à-dire fanamilitaire. Il a fait la campagne de France comme infirmier. Est-ce qu'il avait... enthousiasmé, c'est l'efficacité du monde militaire. Et quand il a fait le... Il a été un des pères du SAMU. Comme vous savez, quand les choses marchent, ils ont plusieurs pères. Quand elles ne marchent pas, vous laissent.
Ils sont enfants, comment on dit,
une fille-mère, allez.
Voilà, il n'y a plus personne.
Et donc, c'est un des pères, mais un père, un des plus importants.
D'accord.
Il y a d'autres noms, Louis Laringue... Serres, tous ces grands types qui ont apporté leur petite pierre, mais lui avait une vision militaire. Et je peux vous la résumer, il disait l'urgence n'aime pas la démocratie. Pourquoi ? dit la démocratie, quand vous, par contre, c'est un moment extrêmement important quand vous prenez l'information pour vous faire une idée. Vous n'avez pas les idées tout de suite. Mais une fois que vous l'avez pris, seul ou avec votre équipe, vous prenez une décision d'intervention. Décision stratégique. Et après, impossible d'en changer. C'est-à-dire que vous avez le numéro, le degré du choix stratégique, puis après vous demandez à vos équipes, ou c'est vous-même, qui l'applique. Donc, le niveau stratégique, le niveau d'application et d'exécution. Donc, trois niveaux, mais ne peut être que hiérarchisé. Une action qui n'est pas une action de terrain, bien entendu. Je ne parle pas d'action politique. Une action de terrain ne peut être que hiérarchisée. Et il n'y a pas plusieurs intervenants. Si vous êtes planté, à quelque niveau que ce soit, c'est vous qui payerez, vous le chef. C'est, nous apprenez ça. Si c'est votre collaborateur qui s'est trompé, bon, il sera saqué, mais vous payerez, vous, chef. Et donc, voilà les valeurs qui nous impliquaient. Et je crois qu'on était d'assez bons urgentistes. Ils nous expliquaient comment ça marche dans l'organisme. C'est une mise en scène, c'est court. On est de loin pour les voir gesticuler du théâtre, pédagogue. Et puis, et surtout, ils nous apprenaient l'urgence. Et l'époque, mon époque, c'était la décennie de l'urgence. 65-75. C'est SOS Médecins, 65. C'est SAMU, qui est dans les années 70, bien que la loi, il a fallu attendre 86. C'est Médecins Sans Frontières. Ça a été aussi au niveau européen. Non, au niveau international. L'UNDRO, United Nations Disaster Relief Office. C'était un concept qu'on n'avait pas, l'urgence. Bien entendu, tout le monde sait. Les médecins savaient intervenir sur une hémorragie, sur... Mais le concept de l'urgence, c'était pas... ces accidents de voiture. Les chirurgiens n'étaient pas faits pour ça. Ils connaissaient l'orthopédie, mais savaient opérer, mettre des prothèses. Mais improviser à chaud. C'était en quelque sorte la médecine de guerre. Mais la médecine de guerre, c'est pour les militaires. Mmh. Et on ne connaissait pas dans le civil. Donc on a tout inventé. Et c'est en effet les militaires qui nous ont appris et formés. Et donc vous voyez, quand vous dites comment ça s'est passé, ben, c'est le tournant d'une époque. C'est la rencontre de maîtres, de gens qui étaient catalyseurs, qui avaient un rôle à jouer. Et donc j'ai eu la chance de faire partie de ces élèves. Par exemple, quand quelqu'un vous dit, vous avez choisi de venir chez lui, le premier jour dans sa bibliothèque, promotion de 25, dit « Je vous félicite d'avoir choisi le meilleur. » Oui, d'accord, tant qu'à faire. Il dit « Mais voilà, que je vous explique. D'abord, vous aurez une demi-journée de congé par semaine, le dimanche après-midi. Vous serez de garde. Évidemment, c'est un peu bête, un jour sur deux, une semaine sur deux. Il n'avait pas de personnel, il était bien obligé de faire comme ça. C'était très dur. Mais comme on pouvait l'interpeller quand on voulait, jour et nuit, on ne faisait pas 40 heures, 72, 80. mais on construisait. C'est plus possible, quand vous êtes trop encadré ou corseté, de construire, d'aller dans l'inconnu. Et dans le même temps, on était des camarades, j'emploie exprès le mot, hein, gauchiste et communiste, pas grave, hein, pas mais il faut le mettre dans l'époque. Hein. Dans l'époque, les jeunes gens étaient politisés, il y avait eu les décolonisations, la guerre de Vietnam, la guerre d'Algérie, beaucoup de nos camarades y avaient été. Et moi j'étais sur Citer, j'y étais sur le tard, mais j'étais au Vietnam mais sous une autre forme. Et donc l'urgence qui naissait, eh bien Médecins Sans Frontières, on était des camarades, et on voulait, oh non, pas faire comme nos pères, pas ouvrir un cabinet de bourgeois, pas non plus aller à la fac, c'est pas notre truc. Fraternité. Il faut aider ces types. c'est, vous savez, le Che Guevara était médecin.
Mmh.
Il écrit dans son journal, en arrivant dans ce village, de Cuba, déshérité, j'avais à choisir entre mon sac de médicaments et mon sac de balles. J'ai ramassé mon sac de balles. Et donc, l'idée de l'action et la finalité de l'action s'est posée à nous. Et donc, on a fondé Médecins sans frontières. Mais comme vous voyez, on ne le savait pas. Mmh. C'est l'urgence. Et j'ai été de ceux qui ont fait passer la culture de l'urgence à la culture de ce petit club de médecins marginaux. Hein. Parce qu'on n'est pas parti tout de suite, on n'a pas eu le fric tout de suite.
J'imagine bien.
La seule chose que je vais vous faire remarquer, que ce n'est pas des médecins qui ont fondé. C'est un journaliste qui s'appelait Raymond Borel. Il avait un journal médical, support de laboratoire. C'était à Winthrop. Et quand il y a eu l'ouragan au Pakistan oriental, qui s'appelle l'ouragan Molo, il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On est des médecins. On voit 500 000 morts et disparus. Et nous, on est le cul sur notre chaise. Il faut qu'on s'engage. Vous doutez bien que des jeunes types qui sont romantiques se sont tous inscrits. Y compris un gars qui s'appelait Kouchner. Vous avez peut-être entendu ça.
Forcément.
Qui était une sorte de journaliste raté.
Voilà, ça c'est dit.
Vous pouvez couper ce que vous voulez. Qui avait été au Biafra. Il y avait été parce que De Gaulle voulait envoyer une équipe pour emmerder les Anglais, c'est toujours ça de pris, au moment de la guerre du Biafra au Nigeria, avec la Croix-Rouge française qui ne savait pas recruter et la Croix-Rouge internationale qui a été donnée à la Croix-Rouge internationale. Bon, ils ont vécu la guerre, le tiers-monde, ils sont arrivés avec une certaine expérience. Mais c'était 2 ans auparavant. Et ils sont venus, l'équipe biafraise est venue renforcer MSF. Ils ne sont pas venus créer les racines de MSF. C'est l'urgence, c'est le SAMU, c'est la découverte de l'extrême pauvreté, c'est le tiers-monde qui était très politisé, vous savez. C'est les non-alignés Bandung. Ça ne vous dit rien parce que vous n'êtes pas de cette génération, mais il y avait le bloc communiste, le bloc occidental, et il y avait des pays comme l'Égypte, comme Cuba, qui disaient, nous, on n'est nulle part. On n'est pas du bloc communiste, on n'est pas du bloc. Et donc, c'était on a forgé ces deux géographes, leur nom va me revenir, qui ont forgé le mot tiers-monde, par analogie aux tiers-états. Vous savez, tiers...
Ancien régime.
Oui, dans tiers-monde. Et donc, on était à la fois des médecins, à la fois des urgentistes, à la fois rêvant d'aventure, vous doutez bien. C'était pas le Club Med qu'on cherchait.
Oui, non.
Et voilà, c'est comme ça MSF. Et, est-ce que je peux continuer le...
Bien sûr.
Mon idée, mais c'est a posteriori que je le sais, c'est qu'on cherchait ce que toutes les civilisations ont cherché, c'est-à-dire une initiation. On allait dans l'inconnu, mais on était obligé de quitter notre territoire familier, territoire affectif, d'aller dans des endroits malfamés et dangereux. Et surtout, on était 24 heures sur 24 sous le regard de ses camarades qui attendaient le moment où vous alliez craquer, vous doutez bien. Et donc, c'est une éducation, ça, je le crois. C'est dur, hein. Vous ne pouvez pas craquer. Et puis vous vous endurcissez. Mais il y a un récit derrière. Le récit des correspondants de guerre, des résistants, tout ça. Un récit qui nous portait. Donc, des aventuriers ou pseudo-aventuriers.
Non, mais c'est pas pseudo-aventurier. Donc vous... En fait, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que, évidemment, quand on regarde aujourd'hui Médecins sans frontières ou le SAMU social, c'est évidemment des réalisations énormes. Mais ce que j'entends, mais peut-être que vous allez me dire l'inverse, c'est que quand vous l'avez fait, c'était complètement empirique. C'était, il y avait une démarche d'aventure, une volonté d'être dans l'urgence.
Et de grandir. Et d'être grandir. Des hommes.
Ouais, complètement.
Des vrais mecs, vous savez. Les filles vont éteindre votre radio. Mais c'était une mythologie très virile. Vous savez, comme les films qu'on voit. Mais à l'époque, on était quand même des marginaux, des vrais marginaux. Et après, bon, quand est-ce que ça s'arrête? Moi, je ne suis pas resté des mois et des mois sur le terrain. Je faisais ces 3 mois, c'est dans l'urgence. Mais quand vous rencontrez la guérilla, les camps de réfugiés, qu'est-ce que vous avez comme matériel médical pour réfléchir? Eh bien, la réanimation. Qu'est-ce qu'un camp de réfugiés? Un camp de réfugiés, c'est comme ça je raisonnais, comme un gros organisme en réanimation. Il faut apporter de l'eau, combien d'eau par tête de pipe et tout ça, et de la nourriture, et les déchets, les chiottes, les ordures, et comment on gère? Où est-ce qu'on met du propre vers le sale? Comment la sepsie? Quel genre de flotte? C'est de surface, de phréatique? Les ordures, vous en faites quoi? Les gamins vont jouer avec les rats là-bas. Comment on les brûle? Mais on les brûle sous le vent. On découvrait, si vous voulez. Et puis les camps, c'est quoi? C'est une prison? Non, on peut aller venir. Alors, un camp ouvert, comme dans nos circuits, ou un camp fermé, semi-ouvert. Donc, la nomenclature que j'avais décrit, moi, réanimateur, elle existe encore. Le camp ouvert ou le camp fermé. Et si vous voulez, mais tout ça, vous voyez, par analogie. Par analogie. Il y a même des gens, comme à la caserne, qui disaient, comment on sait si vos soldats sont bien tenus? Vous pesez tout le monde, vous faites le poids moyen de votre caserne, combien elle pèse, à l'entrée, et alors les personnes... des conneries, quoi. Mais on n'avait pas d'outils. Et on cherchait. Et c'est une aventure médicale. Évidemment, les grands médecins coloniaux, parce qu'ils étaient très fiers d'être des médecins coloniaux. Encore maintenant, ce sont mes idoles. Ces mecs qui avaient des territoires deux fois grands comme la France. Une hiérarchie qui était prête à les renier s'ils se plantaient. Ils allaient inventer des méthodes. La méthode de Gilles Jameau. Et ils découvraient tout. C'était nos maîtres. Et là, il a fallu... Qu'est-ce que c'est que la médecine de guerre? Qu'est-ce que c'est que le triage? Que deviennent nos valeurs? Je me rappelle, on était à la frontière du Cambodge, en Thaïlande, il y avait des grands camps de réfugiés, et les Vietnamiens qui avaient poussé les Khmer Rouges rentraient. Et pour agacer un peu les forces de la frontière, envoyaient des mortiers dans le camp de réfugiés. Et à chaque fois, ça faisait des morts, des blessés. Et un jour, moi j'étais déjà à mission de supervision. Donc je me rends au bloc opératoire, pas au bloc, à l'infirmerie. Si seulement il y avait eu un bloc. À l'infirmerie, voir mes camarades, et à ce moment-là, alerte, mortier, alors ça pleut. On entend des cris qui viennent des coins, d'un peu de tous les coins. Et puis, on dit fin de l'alerte. D'accord. On dit, c'est la Croix-Rouge internationale. Vous savez, il y avait des tranchées en zigzag pour pas être pris en filade. Tous les véhicules devaient être tournés vers la sorte. Enfin, bref. Et ce que vous savez tous. Et on nous amène un Toyota, puis un autre. Mais sur le plateau, il y avait les gens blessés. Et on amène à l'infirmerie, où voulez-vous? Et donc, moi, on monte sur le plateau, les médecins. Regardez, bon, c'est un fémur, c'est une rate. Toute jeune fille, toute pâle, bien sûr. Elle a 18 ans. Et qu'est-ce qu'elle a? Vous soulevez son sarong, elle a tripalé. Inopérable, vous rien faire. Ni au bloc. Ni à notre poste, ni à Bangkok, ni à Paris. Vous ne pouvez rien faire, pleine guerre, gravissime. Donc, je dis, on laisse tomber, on ne va pas perdre son temps. Et je saute du camion, puis. Et mon copain, Daniel, il reste. Et je le vois, il est assis, et il a sur sa cuisse la tête de la fille Il lui caresse les cheveux, il lui parle en français et lui essuie sa sueur. Mais qu'est-ce que fait ce con ? T'as besoin de lui, là, c'est... Ah, j'ai compris. Il devait y avoir une caméra. Ah, le voyou. Je regarde, il n'y avait pas de caméra. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Je ne comprends pas ce qu'il fait. N'empêche qu'il le payera, c'est une faute professionnelle. Il devrait être là. Et puis, au bout d'un moment, il saute du camion et il me dit, c'était son chef, elle est morte. Je dis, oui, bon, c'était prévisible. Et j'ai mis des mois à comprendre que c'est ça qu'il fallait faire, d'accompagner son frère humain, qui n'était pas du tout prêt à la mort, parce qu'elle était toute jeune. Qu'on n'avait rien à foutre, il y avait les autres qui feraient le boulot, mais que ce boulot-là, il n'y a que lui qui pouvait le faire. Ça s'appelle un travail humain, d'homme. Il faut oublier qu'on est un spécialiste dans certains cas. Et j'ai appris ça. J'ai appris, pourtant je suis plutôt un brave type, mais je voyais la blessure, si vous voulez. Je voyais pas le cœur. Je vous le raconte spontanément parce qu'il me revient sans doute. Je revois le... On est, je vous dis, je vois l'environnement. On est le soir. Il y a du sang sur le... Et pour lui, c'était la catastrophe. Il sort, et puis c'est son constat. Mais j'ai pas su tout de suite ce qu'il fallait voir. C'est ça, la formation. Vous voyez?
Et ce que j'entends aussi, c'est que vous étiez... vous avez utilisé ce mot, d'ailleurs. C'est intéressant. Alors, c'était quoi le mot que vous avez utilisé? Vous étiez des personnes à part, un peu sur le côté, finalement.
Marginaux.
Ouais. Est-ce que... Parce qu'en fait, il faut oser être marginal dans une société. C'est pas si simple.
Oui, mais on avait notre diplôme.
C'est vrai. C'est vrai. Ça protège. Mais est-ce qu'il faut... parce qu'on a tendance à rentrer dans les clous, quand même, même avec des diplômes.
Mais regardez. Je resterai, je crois, dans ma tête et dans mon cœur marginal toute ma vie. Je n'ai pas fait une carrière universitaire, je n'ai pas très connu, j'ai une notoriété, c'est vrai. Mais je ne me fais pas d'illusions pour ce que ça vaut. Hein. Mais
ben ça vaut beaucoup, vous avez sauvé des millions de personnes.
Alors reprenons à ça. C'est vrai. Quand j'étais au SAMU, j'avais sauvé des dizaines de gens, parce que on m'appelait pas pour un bobo. Notre équipe venait quand c'était gravissime. C'est vrai. Et je savais faire. J'avais eu un bon maître. Je n'étais pas plus mauvais qu'un autre. Pas meilleur, mais pas plus mauvais. Et puis, j'ai été l'homme le plus important de la vie des gens qui étaient blessés. C'est vrai. J'ai sorti des griffes de la mort. Pas tous. Mais et je m'appliquais. Je peux vous dire que c'est un échec si j'y arrive pas. Quelle que soit la gravité. Mais ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas dire. Mais je vous le dis quand même. Ce sentiment de frustration. Merde, je n'ai pas sorti. Je n'ai pas sorti qui ? Je n'ai jamais rencontré qui que ce soit. Jamais rencontré un homme. J'ai rencontré des cas, des mécaniques. Mais les gens ne savent pas que j'ai existé. Ils connaissent pas mon nom. À la rigueur du chirurgien, je suis pas jaloux, du grand chirurgien, mais l'anesthésiste, le réanimateur, qui a fait tout le boulot, qui s'est cassé la tête, qui a su quand il fallait changer de stratégie, d'autres molécules, je n'ai quand même pas connu. Dans le fond, dans ma vie de réanimateur, j'ai rencontré personne. Ça aurait bien étonné mon père, qui était un vrai médecin.
Oui, mais... Alors, ça c'est sûr, mais alors c'est pas forcément vous directement, mais en créant le SAMU social et puis Médecins sans frontières, alors c'est pas directement, mais en ça vous avez impacté la vie de millions de personnes.
C'est vrai, on a créé un outil. Et on crée l'outil. Et donc c'est ça, l'intelligence, tu crées un outil tout en se mettant en valeur. On était dans des endroits où les bombes pleuraient. Mais d'un autre côté, les missions où il n'y a pas la guerre nous paraissaient fades. Il ne faut pas charrier. faut pas se prendre au sérieux.
Je comprends.
Et c'est vrai qu'après, quand vous voyez dans des camps, des petits bouts de chou, quand j'ai été la première mission Bangladesh, des petits enfants qui cherchaient leur bouffe dans les ordures. Je me rappelle même du nom, c'est que je rencontrais un très, très bel enfant qui ressemblait à mes enfants. C'est tout brun avec des yeux noirs. Oui, ça doit vous dire quelque chose.
Forcément.
Et que j'avais laissé à Paris. Et donc, j'étais resté au Bangladesh. C'est le Pakistan oriental qui est devenu le Bangladesh. Les gens se fusillaient dans tous les coins. Il y avait la variole. Tout ça. Un jour, j'ai cru que j'allais crever. Là. Et chaque jour, une chiasse qui vous coupe en deux.
Je peux juste vous demander de remonter.
Une chiasse qui vous coupe en deux, 6 fois par jour. Et vous rencontrez le délégué de la Croix-Rouge, qui a la même chose que vous, parce que vous avez une tourista géante. Et quand on se rencontre, oh, mais vous avez bonne mine ce matin. Vert cadavérique. Pour se souvenir. Bien sûr qu'on l'a payé, l'initiation. Mais j'ai tenu le coup. Et quand je suis rentré pour vous expliquer le décalage, à Orly, parce qu'on n'arrivait pas à Roissy, à Orly, mon frère vient me chercher, il me voit tout maigre, il me dit, mais qu'est-ce qui est passé? Oh, j'ai pas trop bouffé, et puis voilà. Bon. Puis tout d'un coup, j'ai dit, Jean-Marc, regarde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Mais l'affiche. J'ai dit, mais quelle affiche? C'est une affiche pour nourriture pour chiens. Canigou. J'ai dit, mais là-bas, les mômes, ils meurent, ils n'ont rien à bouffer. Le chien. Il m'a dit, t'es fatigué. Il comprenait. Pour moi, il y avait un hiatus monstrueux. Qu'on fasse une publicité pour la bouffe pour chiens, oui, chats d'ailleurs, et qu'on n'ait pas compris qu'il y avait des enfants qui crevaient parce qu'on ne pouvait pas bouffer, vous comprenez? Mais il n'y a aucun rapport. Bien entendu, on peut faire les deux. Mais moi, je n'avais pas compris parce que j'avais été sur le terrain, vous comprenez? Et c'est ça qui se passe. Quand on est confronté, qu'on est naïf, on pense que, oui, si vous supprimez deux bombardiers, vous pouvez sauver. C'est ce que racontait Raoul Fourreau. Mais ce n'est pas les mêmes budgets, ce n'est pas les mêmes destinations. Et il n'y a aucun rapport entre eux. C'est pour ça que la politique, c'est compliqué, vous comprenez.
La question qui me vient, naturellement, c'est aussi parce que je vois le livre derrière, sur l'omerta à l'hôpital, c'est quoi votre vision de l'hôpital aujourd'hui? On en parle énormément, et vous avez des rôles politiques en plus, donc...
Oui, politique, j'étais sur un strapontin, vous faites pas d'illusion, j'en vais plutôt à la com. Mais enfin, j'ai une petite... Je suis en partie sur les mines antipersonnelles et sur l'urgence. Je peux travailler, ça ne coûtait pas grand-chose. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'était au moment de ces années d'acquisition. On a fait un système génial, très perfectionné. Le premier employeur d'une mairie, c'était l'hôpital. On a construit des hôpitaux. On a, dans les années 70, on a exporté des hôpitaux. Un système vertical. C'était Robert Debré, là, avec sa réforme de 58, il y en a eu 50 000 autres, avec la sécurité sociale généralisée. On a fait un outil prodigieux. C'était de l'époque. On a fait le SAMU, on a fait des dépenses considérables. C'était de l'acquisition. Après, il a fallu faire tourner. Et après, il a fallu dire, on n'a pas rationalisé les coûts, les personnels. Et finalement, on n'a pas eu les moyens de notre politique. Et ce fleuron, impossible à entretenir. Il fallait une métamorphose de ce que nous étions devenus, de ce que la sociologie était. Par exemple, vous ne pouvez pas faire... les 35 heures, l'hôpital, connerie. C'est-à-dire, comment on fait pour ce temps nécessaire, perdu, autour de la machine à café, où on se repasse les consignes, où on se donne la subjectivité. Il y a un temps nécessaire. Pas de rendement, pas de productivité un temps nécessaire, non pas pour s'occuper de la maladie, mais du malade. Et donc, on n'a pas compris le tournant. L'hôpital tel qu'il est obligé de crever, qu'est-ce que vous voulez faire ? On ne peut pas l'entretenir, il ne répond pas à ce que les gens demandent. Oui, on est formidable, on peut faire des grèves de cœur. Et alors ? Et alors l'intérêt du pauvre malade qui vient, qui dit « je veux qu'on me regarde ». On n'est pas foutu de le... Il faut faire une... Il faut qu'il crève, cet hôpital-là. Il n'est plus à la mesure de nos désirs. Vous voulez mettre des postes, et alors ? C'est pas comme ça. Il faut pas mettre le public d'un côté et le privé, mais non. On met tout le monde ensemble. Je prends toujours l'exemple. Allez, on est en 1917. Il y a Foch, par ses espions, par ses aviateurs, il dit, en général, vous savez, il y a une concentration d'Allemands dans cette région, j'ai l'impression qu'il va faire une attaque. Il prend plein de renseignements, il dit, merde, c'est bien, il faudrait se préparer. État de logistique. Et on n'y arrivera pas. Il écrit au ministère de la guerre, en disant, allez, il faut m'envoyer si... 60 millions de cartouches, 25 000 canons au fusil, parce qu'on n'y arrive pas, et des jeunes gens. Et si la réponse, on lui dit, oui, mais vous avez eu, vous, votre dotation déjà du mois dernier, vous êtes en train de la dépasser, qu'est-ce que vont dire les autres ? Non, démerdez-vous avec ce que vous avez. Eh bien, on aurait perdu la guerre. Or, la lutte contre la maladie, contre la mort, contre... c'est une guerre. Et on peut pas... Et un accompagnement. Et il ne faut pas oublier notre statut biologique, qui est de mourir quand même, de vieillir, de mourir. Les vieux, on ne les met pas dans des hangars pour qu'ils crèvent quand même, qui s'appellent leur père, et pour que des margoulins se fassent du blé dessus, du blé en raclant sur la bouffe, sur les couches. Mais c'est vous qui avez rendu un continent, parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour les conduire aux chiottes. Donc vous êtes obligés de pisser au lit. Et maintenant, vous en faites des clochards. Donc si vous voulez... On amoindrit. C'est ça notre système de santé ? Est-ce que c'est d'attendre des gens 9 heures dans les plateformes, parce que dans les urgences, dans les couloirs ? Non. On n'a pas compris que c'est un système obsolète. Donc il crève. Voilà.
D'accord. Très clair. Et alors, si on repartait d'une page blanche, admettons, pourquoi pas après tout ?
Si quelqu'un renversait la table.
Ouais, on renverse la table. Qu'est-ce qu'on fait ?
N'ayez pas peur, ça ne se passera pas comme ça.
Bon, on peut renverser la table. Hein.
Pas avec le personnel qu'on a. Je ne sais pas d'où on le sort, cela même. Non, je n'ai pas le droit de dire ça. Si.
Vous pouvez dire ce que vous voulez.
Eh bien, qu'est-ce que j'avais aimé, moi ? C'est des hôpitaux pavillonnaires, des petites unités de quartier, des maisons médicales. L'intrusion des bénévoles pour accompagner. C'est pas que les hommes machines qui sont intéressants. C'est les hommes en train de vivre, d'avoir peur de la mort, de la souffrance, et d'avoir de la compassion et de la consolation du poids d'être au monde. Mais je vous dis ça parce que, à mon âge, font des consolateurs, des accompagnants, de s'intéresser au périple d'un malade. Par contre, de garder son l'urgence, tout ce qu'on a fait de puissant, mais les hommes ne sont pas des mécaniques. Il y a l'homme augmenté, vous vous rendez compte ? Augmenté. On rêve. Et là, il ne s'est pas passé, écoutez bien, une, comment on appelle, législature, enfin... Non. Je vais en venir aux lois. Une nouvelle arrivée d'une nouvelle équipe gouvernementale. Depuis 2 ans, chaque fois qu'est arrivé un nouveau gouvernement, chaque fois il y a une loi sur la fin de vie. On tourne autour, mais ces vieux font chier, ils coûtent cher. Ils ont bien le droit, pour vieux, d'avoir le suicide assisté. Et là, il y a des réflexions. C'est tout ce qu'on a trouvé. C'est ça le goût de la vie. Moi, j'ai vécu longtemps. Il y a des moments durs, mais il y a des moments... Ma maman, elle est morte très, très vieille. Elle a perdu la tête depuis longtemps. Mais elle savait, quand on rentrait dans le salon, qui était favorable, qui était hostile, quel était le type de temps qu'on avait, la lumière. On acquiert toujours et jusqu'au dernier moment quelque chose, parce qu'on est sur la terre des métamorphoses, des acquisitions. Vous comprenez ? C'est comme ça que moi, vieux médecin, je peux toujours penser comme ça.
Mais alors, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait... Parce qu'en fait, on a beaucoup centralisé, on a créé des grosses machines, des gros hôpitaux.
Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Regardez les hôpitaux de proximité, si rassurants. Les maternités de proximité. Ah oui, mais elles ne sont pas assez performantes, 1000, pour occuper du personnel. Et alors ? Rappelez-vous Foch, qui demandait ses canons. On va perdre, on va tout perdre. Bon, voilà ce que je pense, hein, vous. Puisque c'est vous qui me le demandez.
Ben, je vous le demande et je suis ravi de votre réponse. Enfin, en fait, elle a énormément de valeur. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a eu tendance à... Et je pense que c'est le siècle dans lequel on vit tous les deux,
le siècle d'avant. Moi, je vais partir bientôt.
Moi, je suis encore là un petit peu.
Je vous laisse les clés.
Je ne sais pas combien de temps on va avoir. Je ferai de mon mieux. Mais d'optimisation, de performance...
Et ça sert à quoi ? À ce que quelques mecs se fassent un peu les couilles en or, et les autres non. C'est ça le... Ça veut dire qu'il manque la dimension métaphysique. Qu'est-ce que ça veut dire être vivant sur la Terre ? Totalement perdu. C'est pas à peine que je vous raconte les nombres innombrables, l'infini, quoi. Et on va se poser la question sur les performances. Non, on rigole, mais ça paraît tellement... Évidemment, je me prépare, je suis dans la rampe de lancement pour l'éternité, et donc je cherche le sens. C'est une manière de... C'est pas que je crois en Dieu, mais... Je serais très malin de croire qu'il y a un Dieu infini, moi qui suis fini, incompréhensible. Mais je crois que les hommes peuvent s'améliorer et répondre à des questions par la beauté, je crois. C'est Dostoïevski qui disait « La beauté sauvera le monde », et en effet. Et le père Joseph Wrzinski, de ATD Carmonde, il disait « Le beau, le début de l'insertion. Le beau. Et où est le beau ? Autour de nous, quoi. Promenez-vous dans Paris, trouvez-moi une réponse, s'il vous plaît. Paris qui faisait rêver le monde entier. Les petites coréennes qui viennent sur le pont Alexandre III se faire photographier dans leur mariage. Le romantique, le Paris. Regardez, si c'est ça le beau ? Oui, je suis plutôt... Pensez plutôt à la transcendance. Qu'est-ce qui s'occupe de la transcendance ? Je dis des conneries, mais vous m'obligez. Hein.
Non, mais je vous invite. Je vous invite, moi, tout va bien. Mais en même temps, vous parliez de sens de votre propre vie, mais moi, j'ai 45 ans, j'ai la sensation que... Enfin, moi, je pense souvent à qu'est-ce qui va se passer quand je serai sur mon lit de mort. Et je me dis, je regarderai en arrière ce que j'ai fait.
Voilà.
Et est-ce que c'était... voilà, est-ce que ça correspondait aux valeurs que j'avais ? Mais vous avez fait des tonnes de choses,
non.
Ça, je veux dire, c'est quand même rare.
Je vous ai dit, vous étiez au bon endroit, au bon moment, à la bonne époque. Et j'ai eu un tout petit peu d'audace, c'est tout. Et j'ai rencontré des hommes valeureux, j'ai eu cette chance. J'ai été ouvert, pas tout de suite, parce qu'il n'y avait que moi, mais après, quand vous laissez un peu la place, et que vous pensez du bien des gens, vous les trouvez bien. Je n'ai pas eu d'amis. J'ai eu des compagnons, j'ai eu des camarades. On était dans l'action. On ne s'aimait pas comme amis, on était compagnons. On partageait quelque chose. Ça aussi, ça manque. Qu'est-ce que j'ai fait ? En toute humilité, et je vous le dis, ce n'est pas une coquetterie, parce que j'ai eu ma... Vous doutez bien qu'un mal vigoureux venant de Corse a un certain narcissisme. Mmh. Vous voulez bien le croire ?
Bien sûr. Et je pense que vous avez eu vos heures de gloire, vous avez eu les honneurs, on va dire.
Et chercher à séduire. Pas que les minettes, séduire tout le monde.
Dans l'absolu.
Dans la séduction. D'ailleurs, les minettes aussi.
Mais... On imagine.
Mais si vous voulez... Tout ça, petit à petit, relativiser. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le taf, je crois. Mais est-ce que vous croyez que je me souviens de mes défaites, vous? Des fois où j'ai refusé, je me souviens de ce qui a marché.
Ben forcément.
Mais quand est... à quel moment? C'est comme on disait aux gens, vous êtes croyant, vous? Parfois, le soir. et là, est-ce que j'étais à la hauteur? Oui, là, j'ai toujours été accompagné d'un récit jusqu'à ce que je cherche à être loyal avec moi-même. J'étais loyal avec les autres, oui. C'était les valeurs de mon père, c'était facile, ça. Loyal avec soi, c'est plus compliqué, hein. Comme je vous ai dit, je ne me rappelle pas de loin pas toutes mes défaites. Mais j'étais content quand ça marchait. Et puis, des compagnons. Le SAMU social, vous croyez que ça s'est fait comme ça? Il a fallu que je séduise Chirac, qui ne demandait pas mieux, il en avait besoin. Le SAMU, on n'avait que des ennemis. On nous appelait les cornichons. Quoi, ces connards prétendent faire de la médecine dans la rue, sans examen complémentaire, sans radio et tout ça? C'est des escrocs. Médecins sans frontières, oui d'accord, c'est les Boy Scouts qui vont aller sauver leurs hommes. Allez savoir, c'est pas des trafiquants. Oh oui, je pense qu'ils font leur rapport au SDEC. Vous voyez, je les ai entendus, tout ça. Bon, il a fallu y aller. Mais en même temps, il y avait un récit pas mal. Mais au bout d'un moment, vous exigez quelque chose. Et d'ailleurs, plus les chances se rapprochent, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai pesé sur la Terre? Voilà, c'est des questions qui se posent de transcendance. Écoutez, je suis désolé si vous venez entendre un vieux ronchon.
Ah non, moi je suis ravi. Moi je trouve ça hyper touchant en fait.
C'est ce qui manque, quoi, de la loyauté.
Je sais pas si c'est ronchon, moi j'ai pas l'impression de vous entendre ronchon.
Mais
moi je vous entends authentique, plus que ronchon.
Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que vous avez le choix?
D'être authentique?
Ouais. À quoi ça sert?
Ah, moi je suis assez convaincu. Hein.
Pouvoir, en tout cas j'ai été au gouvernement. Ça vaut ce que ça vaut, mais on m'appelle encore monsieur le ministre. S'il savait. Les honneurs, je ne les ai pas refusés. Je ne les ai pas demandés, je les ai acceptés. Le fric, j'en ai pas eu besoin. J'ai été praticien hospitalier. Qu'est-ce que j'aurais fait du blé? Parce que faut perdre du temps pour en acquérir un. Bon, comme j'étais pas un héritier. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, quoi? Voilà. Merci, mon Dieu. Merci, la Providence. Donc, avant, dans les campagnes, quand quelqu'un allait mourir, vous savez, il tirait les draps. Il y avait des, puisqu'il mourait à domicile, les vieilles observaient, les vieux, mais il y avait beaucoup de vieilles survivants. Tiens, il fait ses bagages quand il reste sur le... Il fait ses bagages pour où? Et donc, il y avait... Oui, il faut faire des bilans, plus ou moins bien foutus. Il n'y a rien à transmettre. Rien. D'abord, cette époque ne le permet pas. La transmission se fait avec les tripes, quoi. Mon père m'a pas parlé. Et moi, je n'ai pas parlé, c'est un grand regret. Mais il m'a tout transmis, vous comprenez? Moi, je ne sais pas ce que j'ai semé. J'ai eu des élèves, enfin des disciples, parce que j'avais rien de technique à transmettre. Je ne sais même pas me servir correctement d'un ordinateur, oui. J'ai pas d'outils. Transmet. Mais la grâce qui est de... Si tu penses que c'est faisable, on le fait. Ça, c'est pas mal. Il y a un petit espoir, alors on y va. Donc, te raconte pas d'histoire. Oui, des mots comme ça. C'est des mots de consolation, quoi. Ça sert à... Autrement, qu'est-ce que vous voulez transmettre? Si on me demande qu'est-ce que tu auras à dire aux jeunes, allez-y les mecs.
Mais en fait, vous plaisantez, mais en vrai, quand vous dites allez-y les mecs,
Et les filles.
Et les filles,
attendez,
bien sûr.
Ne vous trompez pas d'époque. Soyez prudents.
J'en prenais vos mots. Mais il y a plein de gens qui n'y vont pas, qui osent pas, qui sortent pas du cadre.
Qu'est-ce qu'il y a à perdre ? Il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Vous savez, quand il y a des gens étrangers, comme vous qui viennent pour une interview, on sait bien ce que vous avez fait. Ça me fait plaisir, c'est vrai, mais je me demande, mais qu'est-ce que j'ai fait qui l'attire ? Vous voyez ? Les premiers temps du SAMU social, quand je créé, grâce à Chirac, maire de Paris, hein, je me donnais un rond, mais il a...
J'avais une question sur comment on séduit un homme comme Chirac.
Ben, ça va vous étonner. J'avoue, je finis mon truc. Mais il a dit, on va faire ton... Il m'a tutoyé. Mais comment, lui, il me séduit. Le mec important, qui me... le petit médecin. Il m'a dit, j'ai un copain transdev qui a des véhicules, je te les mets à disposition. Allez, t'as besoin d'infirmiers ? Ah bon, les mecs qui font leur service militaire plutôt que de soigner les corps aux pieds, je te les envoie. Les travailleurs sociaux, ah ouais, on va leur donner des primes, qu'est-ce que t'en penses ? Je pensais que du bien. Et puis pour l'hébergement, ben on va demander à mon copain Muller, qui était colonel de l'armée de l'UCN. On a bricolé. Et puis ça s'est fait. Et après, à toi de transformer l'essai, mec. Et donc... J'y allais pour les premiers soirs. Il y avait les infirmières. Je n'étais pas un chrétien furieux, hein, mais je suis un chrétien de civilisation. Je disais, écoutez, cette nuit dans les rues, vous allez rencontrer des gens qui sont de même rang et de même statut que vous sur la Terre. Évidemment, pas de même rang social, vous le constaterez. Mais de même statut, oui, leur vie a aussi d'importance que vous, que la vôtre. C'est important. Et donc, traitez-les hein, comme vous me traiterez. Pas tout à fait parce que je suis votre chef. Mais j'avais osé ça. Et les gens, mais comment leur parler comme ça ? Mais vous leur direz, saute du quatrième étage, je te le demande, ils sautent. Et vous les entraînez. Vous dites, je compte sur toi, ça a de la valeur ce que tu fais. Et je te le prouve. Et puis la deuxième chose, moi je tiens de garde toute la nuit, viens avec moi. Donc si vous voulez, il faut aussi payer un peu.
Donner de soi-même.
Un petit peu. Parce que j'étais pressé de rentrer après quand même.
Bah, faut dormir aussi.
Non, mais ma femme a affronté.
Oui, effectivement.
S'il n'y avait que dormir. Ça, moi je rigole. Mais tous les copains de MSF, tous, ont pris des gardes comme je leur demandais. Vous voyez, ces camarades valeureux, ils avaient compris qu'il se passait quelque chose. Et ils venaient. Encore maintenant, quand j'ai besoin d'eux, c'est des vieux cons, mais ils viennent. Ils ont 10 ans de moins que moi. Parce que la vie a été belle pour eux. Et ils ont le même cheminement, vous comprenez ? Mmh. Alors, comment on séduit Chirac ?
Alors, ailleurs, il y a ça, mais j'avais une autre question en tête, mais oui, je veux bien que vous me disiez comment on séduit Chirac.
Je vous signale, dès qu'on a nous tourné, c'est la loi et l'ordre. J'en suis absolument convaincu, quelle que soit la société, quand tout va bien, on peut se permettre un peu d'humanitaire et de regarder les pauvres. Mais quand c'est un peu... Hein, c'est le flic. Entre le flic et la bonne sœur, c'est toujours le flic. Pardon si je choque vos... Bon. Toujours est-il qu'il y avait une brigade d'assistance pour personnes sans-abri, la BAPSA, qui pouvait ramasser les gens en vertu d'une loi. C'était des délinquants, délit de mendicité, délit de vagabondage, et les amener à Nanterre. C'était dans un état. Des fois, ils ont sauvé sans le savoir des vies, Mais quand même, ils ne disaient pas, s'il vous plaît, monsieur, veuillez montrer dans mon carrosse avec des gants blancs. Non, c'est pas comme ça. C'était violent. Mais bon, le flic, c'est pas de la science sociale non plus. Et je m'étais dit, il faut que je fasse un truc. Je connaissais à fond le SAMU social. Le SAMU, évidemment, parce que j'étais premier couteau chez mon patron. Donc, je faisais tous les sales coups. Et la rencontre avec le journaliste, je le faisais mousser. Donc, je savais tout. Je dis, on va faire un SAMU social. Je l'ai écrit. Il ne manquait pas une virgule. Je dis, plutôt que d'avoir des flics qui ramassent, c'est honteux. Vous savez, j'étais de gauche à l'époque. Trois dopes. J'ai envoyé... C'était Simone Veil, ministère de la Santé et de la Solidarité. Ah, on recevait le président du Médecins sans frontières, quand même pas la même ministre, qui est reçue par l'énarque de service. Elle avait lu mon truc. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle dit, docteur, nous ne ferons pas votre système. Vous allez faire apparaître une population que nous ne saurons pas traiter. Non, par contre, on a des centres d'hébergement. Je dis, écoutez, je suis médecin, répétez-moi un peu exactement ce que vous avez dit. Je me l'ai répété en me regardant. Dans les yeux, on ne fera pas votre système. Bon, c'était foutu du côté du ministère. J'ai demandé à la DAS qui m'a envoyé balader. Puis après, j'ai été à la DASES, et puis à la DAS des Hauts-de-Seine, et puis tous les gens. Puis les copains m'ont dit, mais pourquoi tu ne vois pas le maire de Paris? Un homme de droite, vous rigolez. Mais si, je t'assure, il venait de faire la carte Paris Santé. Bon, comment faire pour avoir le rendez-vous? Un de ses conseillers lui passe le dossier et lui fait faire le tour de dossier à ses conseillers, à ses copains. Et puis, j'oublie, je suis en train de fermer. Donc je peux vous raconter cette histoire. Mes consultations à Nanterre, j'ai deux infirmières et deux garçons. Parce qu'on ne peut pas mettre le nec plus ultra, on met un Martiniquais, un Guadeloupéen. Des mecs, ils n'étaient pas des foutres de guerre, hein, c'est pas. Mais d'une gentillesse avec les hommes perdus. Et je me rappelle encore de. Encore. C'était des petites gens, hein. Mais gentils. Et qui avaient de la pitié, de la compassion. Et donc, j'étais très content d'avoir ces gens-là et mes infirmières qui ont compris le boulot. Et un jour, donc, après tout ça, je faisais mes auscultations, je cherchais de la tuberculose et il y en avait. Et puis, le téléphone sonne. Et mon garçon, il s'appelle Loulou, Louis, dit Loulou, le téléphone. Oui, mais lui, il faisait son PM, il n'y a pas de Loulou, téléphone. Ça va. Il va entraînant les pieds. Téléphone. Louis, je m'énerve. Bien, dégage. Louis, qui est-ce? Xavier, c'est Chirac. Arrête tes conneries, c'est qui? C'est Chirac, enfin. Tu me dis, merde. Je deviens furieux. Allô? C'est le docteur Manet? C'est le cabinet de monsieur le maire. Monsieur Chirac voudrait vous parler. Il avait lu. C'était arrivé. « Dis, docteur, ça me ferait plaisir que vous veniez me voir. » Pendant que je parlais, l'autre con disait « Dis-y pour mon appart, dis-y pour... » Et il virolait toute la conversation. Cher Louis, il a fini par l'avoir, mais pas par moi. Je vous dis qu'il y a une fin heureuse. Et il m'a convoqué. Et j'ai été le voir, donc il avait lu. Et tout le monde m'avait dit, il ne faut pas le faire. Quand même. Parce que les technos disaient, c'est trop cher pour faire quoi. Vous voyez, pour... Et il me fait asseoir. Parce qu'il avait. Il avait la carte Paris Santé, puis je crois qu'il avait une arrière-pensée d'aller plus loin de.
À l'époque.
93. Et. Asseyez-vous, docteur. Alors, racontez-moi. Oh, j'ai dit, monsieur le maire, c'est facile. Il y a des gens qui sont illégitimes sur la terre et on ne fera jamais rien pour eux. Et là, j'ai vu qu'il... Quoi ? Qu'est-ce que vous me dites ? Des gens illégitimes ? Ben, j'ai dit oui, je lui raconte. Et là, j'ai vu, il dit tout bim, on va le faire ton truc. C'était Chirac, hein, qui avait bien d'autres défauts, je vous les raconterai, mais éventuellement.
À un autre moment.
Puis j'ai pas envie. Mais il m'a fait un coup aussi, sans le savoir. Il y avait tous ses conseillers qui assistaient, les directeurs, tout ça. Puis il se tourne vers eux, il fait, mais ceux-là, ils vont vous mettre les bâtons dans les roues. Alors tu m'appelles. et 25 ennemis mortels d'un seul coup.
Pas mal. Attendez, j'ai encore une question à vous poser.
Toute petite.
Vous parliez tout à l'heure de cet homme, camarade, qui avait cette femme qui mourait sur ses genoux.
Daniel Pavard.
Et vous disiez tout à l'heure, ce qui manque à l'hôpital, c'est de prendre soin, d'avoir... Attendez, il faut que vous ayez le micro.
Non, de comprendre la détresse. De comprendre.
Mais ils ne sont pas formés à ça, les médecins, aujourd'hui.
Ben oui, mais je le regrette, il n'y a qu'à les former. Hein. Ben pourquoi on les fait sur numerus clausus, sur un quart de demi-point de « il n'y a pas assez de médecins », des connards qui ont dit « il n'y a pas assez de médecins », d'où on en importe des gens dans la fonction et non pas dans ceux qu'ils sont. Pourquoi on ne fait pas des études comme ça? On leur apprend vaguement un peu de psychologie, mais publier, c'est l'enseignement, la recherche et la clinique, c'est les trois axes. Attendez les mecs, c'est aussi des gens qui vont crever. C'est pas avec la fac qu'on apprend ça. Mmh. Où sont les modèles? Pourquoi il n'y a pas dans les consultations aux urgences les assos? Quoi, elles sont déshonorantes? Moi, j'ai fait toute ma vie associative. Non, je suis un peu à l'hôpital, mais pour être honnête. Mais pourquoi on ne mélange pas? Pourquoi pas les infirmières qui prennent des décisions d'orientation? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette hiérarchie de médecins, cette hiérarchie technique? Moi, je veux bien qu'on ait une hiérarchie technique, mais ça repose. Est-ce que vous croyez que Pavard était moins titré que moi? Et c'était un médecin généraliste. Mais c'est lui qui savait. Et c'est peut-être cela qu'il faut faire rentrer. Des vieux de la vieille. Les retraités qui prennent leur retraite à 60 ans. Attendez, vous avez une autre vie, là. C'est la vie de transmission. On vous a payé aux études, vous avez eu une clientèle obligée, et maintenant, il faut transmettre. Transmettre, non pas la technique, laisser les jeunes faire. Transmettre la traversée de la vie. Qu'est-ce que ça va appris? Ah ben, justement, des histoires comme celle de Daniel, j'en ai 50 à vous raconter.
Et j'ai une dernière question, parce que c'est la question que je pose toujours pour le podcast. C'est systématique. Le podcast s'appelle Vlan. Vlan, comme quand on claque une porte. Et donc, je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. Une idée, un concept, un principe, mais avec le micro.
Arrêtez votre technicité, on n'en a rien à foutre. Un homme sera augmenté dans ses vertus, pas dans sa technique. Pensez à ça. Transmettez pour qu'il soit meilleur. On est des êtres sociaux. On n'existe que par le regard et dans le regard des autres. Faisons fructifier ça. On a fait fausse route, complètement fausse route, depuis l'ère industrielle, depuis qu'on a... La technique a apporté beaucoup de choses, je suis d'accord, a fait des progrès considérables. Et alors? On en est à dire droit de mourir dans la dignité. Et moi je dis droit de vieillir dans la dignité, droit de vivre dans la dignité. Les performances, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il faut que les gens s'épanouissent. Vous savez, il y avait un petit dessin de Sempé. Vous connaissez Sempé?
Bien sûr.
On voit un jeune homme qui fait au clair de lune. On le voit à genoux auprès d'une fille qui est sur son banc avec son chapeau. Il lui dit, biscuit brun, pâte la lune. Croyant, il reprend un slogan qui n'a aucun intérêt, qui est un non-sens. Quand vous voulez draguer, de quoi vous parlez? De vos prouesses, bien entendu, mais des jolies choses qui est autour de vous, des jolies choses qui est autour d'elle. Vous parlez de poésie, vous échangez les images de cinéma, Donc vous savez à quel moment, quand quelqu'un meurt, moi je vois des mandarins atroces, et vous voyez, il se donnait sans cesse à ses élèves, il aimait les pauvres. On voit que les vertus du mec, qui était un mandarin infernal, c'est que derrière nous, chacun de nous, dans nos cages thoraciques, on sait très bien ce qui est beau et bon et vrai. Est-ce quand les gens sont en danger, sont fatigués, sont malades, qu'ils sont fragiles, mais on essaye, c'est immatériel, met une main sur leur épaule. Remarque, je n'ai pas toujours su ça, mais l'hôpital, il faut le jeter au rebut. Notre système de santé, c'est devenu, comment vous dirais-je, un système hostile. Vous avez vu la santé hostile quant à notre personnel politique à tous les échelons? C'est pas brillant.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.